Hello, bonjour à toutes et bonjour à tous également. Ici Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve dans cet audio pour un petit peu aller plus en profondeur sur les légendes arthuriennes. Et on commence avec le cousin d'Arthur. Pour cela, comme je vous l'ai dit, je vais me baser surtout sur le livre Red Tree, White Tree de Wendy Berg, hein, L'arbre rouge, l'arbre blanc, parce qu'elle explore vraiment l'arbre généalogique des Pendragon à travers les contes et légendes de la mythologie britannique, avec une exploration de vraiment le corpus très élargi de textes, plutôt que celle à laquelle on a plutôt l'habitude sur les légendes arthuriennes. Donc elle est partie vraiment très très loin sur des histoires qui sont un petit peu moins connues. Et c'est ce qui lui a permis en fait d'établir une sorte de dynastie d'arbres généalogiques de ce qu'elle appelle les rois prêtres. C'est un petit peu comme l'étaient les pharaons, mais sur la zone donc de la Grande-Bretagne. Donc on ne va pas parler tout de suite de l'arbre généalogique des Pendragon. On va en parler un petit peu plus tard dans le chapitre suivant sur cette page. On va juste commencer par parler d'Amlaod Vledic et de Gwen Pendragon. Pour ne pas nous perdre, on va se contenter de les évoquer très très brièvement, tout simplement parce que Goleudid, dont nous parlerons, ça fait beaucoup de nouveaux noms, je sais, je m'en excuse, parce que Goleudid, c'est une enfant de cette union entre Amlaod et Gwen Pendragon. Tout comme Ygraine, la future mère d'Arthur. Donc, Goleudid et Ygraine sont sœurs et elles vont finalement avoir un petit peu la même mission. On s'en rend compte lorsque l'on évoque les deux histoires. Donc, cette mission qui est de mettre au monde des enfants d'une lignée un petit peu magique ou de sang un petit peu plus Graal, comme j'aime l'appeler. Donc d'un ADN moins interféré, comme en fait nous l'avons vu dans le cas de Marie. Donc pour Ygraine, ce sera Arthur, et pour Goleudid, ce sera Kulvj. Je m'excuse si je le prononce mal, je le prononce certainement mal. Je vais surtout le remplacer par le terme le cousin d'Arthur. Donc Kulvj, dont nous allons maintenant évoquer l'histoire qui va nous apporter en fait pas mal d'indices pour mieux comprendre en fait cette légende d'Arthur. Donc on en revient ici à cette théorie de femme ou de prêtresse qui ont eu cette mission de mettre au monde une lignée non interférée génétiquement, et cela en fait par les mêmes procédés magiques utilisés par Anna, par Marie. Dans le cas de Goleudid, on parle vraiment d'un rituel fait avec un prêtre roi. Donc tous ces enfants-là, finalement, Jésus, Yeshua, Kulch et Arthur, vont avoir quelque part une mission proche. Mais leur conclusion, forcément, et la façon dont ça s'est passé, ce sera très 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 différent, bien entendu. Donc, on va se concentrer sur Kulvj, qui est donc le cousin d'Arthur, le neveu d'Ygraine et le fils de Goleudid. En cela, et on va le voir, il est de la dynastie des prêtres rois des Pendragon, et dans son sang va couler donc une espèce de j'aime pas dire perfection ou pureté génétique parce que c'est pas ça, c'est plutôt quelque chose d'originel, de retrouver des capacités de l'humain qui étaient originellement comme ça. Donc je préfère dire non interféré, tout simplement. D'après les textes étudiés et révélés par Wendy Berg, lorsque Goleudid, la sœur d'Ygraine, donc tombe enceinte, elle devient folle, comme on le retrouve dans l'histoire, dans l'historique de Merlin, qui vécut une période de folie assez similaire entre folie pure et isolation dans la forêt Quélidon, une forêt magique, hein, attribuée comme magique, et vivant en fait au niveau du stade animalier. Et tout comme lui, Goleudid erre dans cette même forêt, la même forêt de Quélidon, et refuse de s'abriter, de revenir au palais. Enfin bref, elle vit aussi comme un animal dans cette forêt magique. Alors, est-ce que, tout comme Merlin, est-ce que ça pourrait être le symbole d'un voyage intérieur initiatique au cœur du soi sauvage, du temple vert, blanc argenté, un petit peu comme une quête de vision chamanique, par exemple? C'est la question, la première hypothèse que l'on peut avoir. En tout cas, voici une citation du texte Le Mabinogion, où on retrouve l'histoire du cousin d'Arthur, que j'ai traduit de l'anglais parce que, bien entendu, il n'y a pas de traduction en français, en tout cas des écrits de Windeberg. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, c'est pas forcément littéral, bien que j'ai essayé d'y coller et essayé quand même d'avoir un sens. Bref, voici la citation. Durant le temps de sa grossesse, Goloïdi devint sauvage et erre dans les alentours sans habitation. Mais lorsque l'accouchement approcha, la raison revint à elle. Alors, elle alla à une montagne où il y avait un porcher, gardant un troupeau de porcs. Et par la peur des porcs, la reine fut délivrée, et le porcher prit le garçon et l'emmena au palais. Voilà pour la citation. Donc, on parle bien d'une reine, donc on est dans cette dynastie-là, mais aussi peut-être une reine qui a été initiée à quelque chose. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette situation, c'est que dans les ronces de Merlin, il y avait aussi cette histoire où il parlait avec son cochon personnel. Donc, voilà, un symbole qui revient. Donc, les symboles qui reviennent, vous le savez, on creuse. Et le cochon, à l'époque, c'est le totem de la déesse Ciridwen, hein, la fameuse déesse au chaudron, qui a donné vie d'ailleurs à Merlin, d'après les écrits. Et donc la présence d'un porcher, d'un gardien de cochon à la naissance de Kulfj, le cousin d'Arthur, ça peut être une indication de la présence d'un prêtre de Ciridwen, donc de la grande déesse blanche, hein, c'est un autre de ses noms. Et il se peut même que ça peut être Merlin lui-même, on ne sait pas en tout cas. Il y a cette présence-là du sacré ou de prêtre pouvant faire le lien avec ce sacré. Peu après la naissance de son fils, Goloïdide quitte ce monde. Elle ne meurt pas vraiment, ce n'est pas écrit tel quel, parce qu'en plus elle va encore apparaître dans l'histoire pour fournir des conseils ou des choses comme ça, mais il est dit qu'elle quitte ce monde littéralement. D'après l'auteur Windeberg, Goloïdide pourrait être une prêtresse féerique. On va voir pourquoi, comme je vous le disais dans le chapitre suivant. Une prêtresse aussi, pourquoi pas, du monde des elfes. Peut-être qu'elle appartenait même à cette espèce-là, aux elfes, ou alors, en tout cas, elle était en connexion avec eux. Et peut-être, si elle était une elfe, elle aurait pu prendre forme le temps de montrer au monde un fils magique. Pourquoi pas, toutes les hypothèses ici sont ouvertes. En tout cas, une fois que sa mission est achevée, donc on voit vraiment que c'était ça qu'elle devait faire, et eh bien qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner dans son monde à elle, au monde, dans le monde des elfes. Ce qui signifierait donc que Kulfj serait au moins à moitié humain et à moitié elfe. Donc un enfant totalement magique et dont la suppression des interférences serait aussi causée par ce lien au cosmos que recherchent les prêtresses lorsqu'elles essaient de faire une reproduction magique. Voilà. Donc que ce soit l'hypothèse de cette fécondation magique ou de la prêtresse qui vient du monde elfique, dans tous les cas, dans ces deux cas en tout cas, nous nous retrouvons avec un fils pas comme les autres, donc doté de capacités hors normes et forcément d'un destin hors norme, comme à chaque fois tous les enfants magiques. Ce que l'on sait de l'œuvre étudiée, c'est qu'il va être élevé pendant toute son enfance par les prêtres, pardon, du temple des mystères. Il n'est pas dit plus à ce sujet, on parle des temples des mystères. Et qu'ensuite, sa mission, ce sera de gagner la main d'Olsen, une fille de géant. Géants qui sont pour le coup gardiens du mont elfique. Ils servent de gardiens du mont elfique. Donc Olsen, c'est une fille de géant et c'est une fille qui appartient à ce monde-là. Et pour cela, il va forcément affronter de nombreux défis. C'est une véritable quête. Et avant de commencer sa quête, qu'est-ce qu'il fait? Il va se rendre à la cour du roi Arthur. Alors il est décrit absolument rayonnant d'or, d'argent, avec une belle cape violette. Son bouclier est orné de quatre pommes d'or. Ses armes ne sont pas mortelles, mais sont les symboles des quatre plans que l'on peut retrouver par exemple dans le tarot: l'épée, la coupe, le bâton et la pierre, ou pour le tarot, ce qui coïncide avec les deniers. Donc très certainement là, on parle des dons de ce semi-elfe, de cet enfant magique, et peut-être même des elfes eux-mêmes, qui sont aussi ceux des humains, les symboles de l'intellect, de l'émotion, de l'intuition et de la sensation, mais qu'il aurait certainement maîtrisé de par son éducation au temple des mystères. On voit là que le cousin d'Arthur, c'est plus quelque chose de l'ordre du magicien que du guerrier, clairement, voire même peut-être du chaman, du prêtre, on ne sait pas trop, mais on sent, voilà, que ce n'est pas des armes pour faire la guerre, mais plutôt pour œuvrer dans les quatre plans symboliques, peut-être même qu'il les mettre dans ces quatre plans-là, donc chaman. Arthur ne vient pas avec lui, mais il envoie quelques-uns de ses chevaliers, notamment son bras droit, Kay, à l'époque. Ensemble, ils ne perdent pas de temps à enquêter dans le monde matériel, dans le monde des humains. Ils se rendent directement à la bordure des mondes. Et comment on le sait? Eh bien, c'est parce que la description dans le texte du paysage a quelque chose d'absolument irréaliste, où les paramètres de temps et d'espace que l'on considérerait normaux ne semblent pas s'appliquer. Notamment, ils se retrouvent devant un immense château tout de suite au début de l'aventure, et ils vont mettre 3 jours pour l'atteindre alors qu'il est à portée de vue. Et il y aura beaucoup voilà, de péripéties, mais ils vont mettre 3 journées entières pour un château qui paraissait à jeter de pierre. Et quand enfin ils arrivent au château, après bien entendu de ces nombreux déboires dont les légendes arthuriennes ont le secret, ils rencontrent bien les gardiens du monde des elfes. Un gardien qui s'appelle Custenin et dont la femme a l'apparence et les capacités de la déesse Serpent, on va en reparler. Et puis Isba d'Aden, qui est le gardien qu'on recherchait, le père de la fameuse Olwen, qu'il doit marier et trouver. Et celui-ci va attribuer à l'équipe de nos héros, dont le cousin d'Arthur, forcément des tâches à accomplir, un peu du genre herculéenne. Cependant, certains d'entre eux, de ces tâches-là, certaines d'entre elles, se situent sur d'autres plans. Clairement, il s'agit d'affrontements mentaux avec des prêtres, des mages noirs. Et donc, les mages noirs, ce sont des prêtres qui ont mésusé de leur pouvoir. Et on remarquera là aussi qu'ils ne sont pas tués par Kulfsh, le héros et le cousin d'Arthur, mais il réussit à rétablir, c'est ce qui est dit comme ça, un équilibre dans la prêtrise en poussant le mage noir à des niveaux pré-humains. Pas d'explication. Mais il en ressort que Kulfsh a réussi sa mission, que c'est un grand succès, qu'il a exploré d'autres mondes, qu'il épouse la belle et donc qu'il a réussi. Ce sont quelque part les prémices de la quête du Graal qui va se passer finalement dans les mêmes conditions entre prêtrise et monde féerique. Cependant, la grande erreur d'Arthur, et nous allons le voir dans un autre audio encore, on va voir beaucoup de choses dans ce chapitre, sera de baser principalement ses recherches dans le monde humain, à l'inverse de son cousin qui a été directement dans les autres plans parce que, comme on pouvait le voir, il a été éduqué dans les temples du mystère, donc c'est quelque chose qu'il connaît, c'est quelque chose qu'il a maîtrisé, il sait où aller. Arthur, lui, va plutôt se perdre. Il ne va pas, je ne vais pas dire, ne va pas croire en l'existence de ces autres mondes, mais il va avoir beaucoup, beaucoup plus de mal à les trouver. Avant cela, il va être intéressant de se pencher sur Merlin, sur la dynastie des Pendragon, comme je vous l'ai dit. Ce sont des figures qui semblent mettre en route, en fait, les deux histoires d'Arthur et de son cousin, quelles qu'elles soient. Et on peut se poser la question, qui étaient-ils vraiment, ces figures-là? Et c'est ce qui va nous permettre ensuite d'aller explorer la légende arthurienne telle que l'on la connaît sous une autre perspective cependant. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio et je vous dis à très vite pour la suite.